mais c'est jamais plate. Disponible à tous les jours sur la page YouTube de Boulevard 102.1. Voici le Pit Stop.
Denis Gravel qui est en place. Juste avant d'aller le retrouver, on va regarder ce qui se passe sur la route présentement, Max.
C'est pas si mal, le petit moment d'attente habituel pour l'accès au pont Pierre-Laporte direction Nord, mais ça s'améliore déjà. Sinon, pont de Québec aussi, là, plus vers la sortie du rouge foncé sur la carte. 20 des deux bords vers Taniata, il y a un ralentissement. Sur la rive nord, Capitale-Ouest entre Mettombeau-Royal et Laurentienne. Capitale-Est aussi vers Robert-Bourassa. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Et quand tu roules vers Shannon à partir de la route Léo-Major, il y a un ralentissement aussi.
Merci beaucoup. Salut, Denis Gravel.
Bonjour.
Tu passes un beau week-end?
Oui, toi?
Tu profites de l'extérieur? Oui, ça a bien été. J'ai été me promener au Mont Bel-Air hier. Je sais pas si tu as déjà été faire une petite balade dans ce secteur-là. Un genre de piste d'à peu près 5-7 km, toute bien dégagée en gravel. Tu fais le tour du lac en haut, puis après ça, tu reviens. Tu dis, tabarouette, j'ai fait mes 12 000 pas aujourd'hui. C'est beau! Je peux passer ma journée, puis être en paix avec ma santé.
C'est vendredi soir qu'on est allé en ville. Il y avait les commerçants d'une partie du Petit Champlain, puis d'une partie de Saint-Roch qui étaient à l'extérieur pour partager des bouchées, de la broue. Je pense qu'il y a une compétition amicale, puis ainsi de suite. Mais ils vantaient tellement fort, là. Fallait. C'est la deuxième fois de ma vie que je m'en vais en ville puis que je m'achète un coton ouaté en ville pour finir la soirée en ville.
Oh, okay.
Faisait fret à ce point-là, là. C'est dans ce temps-là que j'achète des cotons ouatés, des Browns puis des Nordiques au Logo Sport sur Saint-Jean, là. C'était sympathique. C'était sympathique. Il y avait du monde en ville.
Ben, j'étais là vendredi soir. J'étais allé manger dans le Vieux-Québec puis je sais pas si tu les as vus. Mais il y a un band.
Ah ben oui. Écoute, j'ai pris des photos.
Au cul-de-sac.
C'est au resto
pub cul-de-sac.
Oui, c'est dans le Petit Champlain en bas, dans une petite rue qui est superbe. Ils ont eu l'idée de génie de faire jouer un band au deuxième étage, vers l'extérieur.
Fenêtres.
Fait que la fille qui chante a une fenêtre, le bassiste a une fenêtre, le guitariste a une fenêtre, puis tu voyais le drummer un petit peu s'agiter en arrière. Je trouvais que comme setup, là, ça faisait ville moderne, ça faisait le fun. Je l'ai pris en photo vendredi, je capotais.
C'était vraiment nice.
Ouais. C'est un concept européen qu'ils ont repris. On voit beaucoup ça en Europe avec les vieux bâtiments. Là. Le Ben s'installe dans des fenêtres devant des grandes places publiques.
Moses, que c'est
ça me faisait penser aux Jeux olympiques. Quand il y a eu
Gojira. Gojira? Ouais, eux autres, ils l'avaient, la façade.
Le setup était malade.
Hey, le meilleur moment de l'histoire du métal. Man. Ouais. C'était incroyable.
Il a commencé à pleuvoir, fait qu'on a sacré notre camp. Mais quand il y a des événements comme ça, c'est le fun. C'est spontané. Toi, tu étais au courant qu'il se passait de quoi dans le Vieux-Québec en fin de semaine?
Je me suis retrouvé là par hasard parce que c'était la cérémonie de promotion de mon grand qui terminait sa sixième année.
Wow.
Ils font des cérémonies de promotion pour ça maintenant. Puis, tu sais, les parents, on y va, puis on se dit, mon Dieu Seigneur, dans notre temps, on n'avait pas ça, puis tabarnouche. Puis finalement, l'émotion finit toujours par te rejoindre un peu. Là, je veux dire, ça vieillit, ces petites bêtes-là. Là, puis après ça, on est allé se promener en ville, passer une partie de la soirée. Ça a été super agréable.
Écoute, ce matin, j'en ai parlé un peu, puis après en avoir parlé, ça ne me tentait pas pantoute parce que je me disais que, tu sais, peu importe de quoi on va, si on jase de ça, on va se faire juger d'un bord comme de l'autre. Mais ce qui s'est passé dans les derniers jours à Montréal, pour ce qui est du poste de quartier numéro 39, une quinzaine de policiers se sont fait retirer de la route, ce qui n'est pas une mauvaise chose. 13 qui seraient affectés à du travail de bureau et 2 autres qui auraient été retournés à la maison. Il y a une enquête qui a eu lieu au service même du service de police de la ville de Montréal et on a découvert que ces drôles d'individus-là se partageaient des vidéos qui n'avaient pas de maudit bon sens. Puis il y en a quelques-uns aussi qui se ramassaient des trophées de chasse quand il arrêtait un noir. Jamais il y a une tresse qui tombait à terre ou si jamais il y a une tresse pendant l'altercation qui était arrachée, bien, on gardait ça en trophée, on prenait ça en photo puis on s'envoyait ça entre collègues. Je voudrais pas être un policier aujourd'hui à Montréal parce que les gens vont dire « Ah ben comme quelques policiers ont fait ça, c'est tous les policiers qui sont des trous du cul. » C'est pas vrai. C'est pas tous les policiers qui sont des trous du cul. Mais quelle histoire! La mairesse qui embarque là-dedans.
Ça
oui, le racisme
très, très
systémique existe. Et là, tu comprends que la communauté de Montréal-Nord dit « Ah ben depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on vous en parle, qu'on est ostracisé par les policiers, ben là, vous l'avez la preuve. »
C'est la même police qui s'est trompée de noir à un moment donné. T'en souviens?
Oui. Pauvre gars.
Ils ont arrêté un noir qui avait rien à voir avec leur affaire, mais il était noir. Puis tu sais ce que c'est, hein? Des noirs, ça se ressemble tellement toutes. c'est la même police. Je veux dire, il y a un problème. Il y a un problème, c'est gangréné. Puis dans une ville cosmopolite comme Montréal, faut que tu aies une tolérance zéro par rapport à ça.
Ouais.
Zéro, zéro plus zéro. Là.
Ils ont bien fait de sortir. Là, de là à admettre que le racisme systémique existe à Montréal, je trouve que la mairesse y a été fort pas mal, parce que racisme systémique, ça veut dire que c'est mis dans le système. Donc, que le gouvernement ferait partie de ça, j'y crois pas vraiment à cette portion-là. Est-ce que dans notre société, on essaie de faire place aux Premières Nations? Est-ce qu'on essaie assez de faire place aux personnes immigrantes? Je pense que oui. La preuve est telle que la mairesse de Montréal, c'est un produit, un excellent produit issu de l'immigration. Même chose pour ce qui est du chef de police de la ville de Montréal, Fadi Daguerre. Donc, de là à parler de racisme systémique, je trouve qu'on donne des armes à des opposants qui disent tout le temps, qui crient constamment au racisme.
Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de racisme qui vient d'ignorance, qui vient de peur aussi.
Ça, c'est de la xénophobie.
Ouais, mais tout, c'est un mélange de tout ça qui fait que la personne racisée se sent ostracisée. Puis t'as beaucoup de personnes blanches privilégiées qui se rendent pas compte qu'ils sont racistes, mais qu'ils sont par ignorance ou par, justement, crainte qu'on perde notre Québec blanc, ce genre de conneries-là. Mais de voir que c'est présent dans nos corps de police, tu sais, on peut faire le débat éternellement sur le racisme systémique, puis il y a personne qui va arriver à la même réponse. Mais de voir que dans un poste de police particulier, dans une ville comme Montréal, où on laisse aller beaucoup de choses. Là, t'sais, on le remarque souvent, nous autres, à distance. Il y a une manif, ça bloque la moitié de l'île, puis les policiers sont là, puis ils font jouer le sirène à côté, puis ça semble pas déranger personne. C'est une police qu'on a déjà, d'ailleurs, accusée d'être trop tolérante par rapport à certaines manifestations, certains cas de violence, certains cas de bâtir des campements sur des lieux publics, campus d'université, et ainsi de suite. Ça porte terriblement ombrage au corps policier de Montréal, puis ça va à contre-courant de tout ce qu'une société veut être en 2026.
Mais à quel point t'as pas de jugement quand t'es policier pour faire une affaire de même? T'sais, je suis persuadé que la plupart des policiers et des policières qu'on a au Québec, c'est des policiers bienveillants qui sont capables d'effectuer leur job à 100% puis que ça va toujours bien aller, mais quand t'as des petits crottés comme ça qui font mal paraître tout le corps de police dans son entièreté, ça me fait halluciner. J'ai hâte de voir ce que Roger Ferland va nous dire ce matin vers 8h30. Roger, c'est un ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Puis il a eu affaire avec des gens qui étaient issus des communautés, comme il a eu affaire à des Hells Angels puis des criminels qui étaient à 100% blancs. J'ai hâte de voir qu'est-ce que lui va dire de ça, Denis.
Ouais, puis moi, ce qui me laisse penser que les policiers sont allés trop loin, c'est le fait que c'est d'autres policiers, donc des partenaires, qui les ont dénoncés au chef en disant « Hey, ça n'a pas d'allure que ce gang-là, cette gang de policiers-là est en train de faire dans Montréal-Nord. »
Ça, c'est... J'ai l'impression, puis je parle vraiment à travers mon chapeau, mais j'imagine que ça crée un climat malsain quand t'es toujours confronté aux mêmes criminels de la même façon. Puis à un moment donné, c'est peut-être là que tu te radicalises, c'est peut-être là que, justement, la rivalité t'amène à fausser tes perceptions puis à faire des conneries de même qui sont entretenues par plusieurs. Puis à un moment donné, t'es dans ta bulle puis t'es pas capable de décrocher.
Tu viens qu'à normaliser ça?
Écoute, la dernière chose que je veux faire, c'est essayer de justifier des comportements comme ceux-là que je trouve aberrants, que je trouve dégueulasses. Moi, j'aime mieux des policiers qui disent, par exemple, comme c'est arrivé il y a deux semaines, « Monsieur le maire, on peut le défaire, là, le campement, pour votre conférence de presse, là, mais il va se refaire ailleurs. C'est des individus qu'on connaît. »
J'ai trop pu, mes itinérants.
Ils sont pas capables de les accueillir ailleurs. Ouais, sont...
Je cherchais mes itinérants en 20 semaines, ils sont plus là.
Ils sont missing in action. Ben, peut-être, écoute, peut-être qu'ils ont été récupérés par les organisations. Peut-être qu'ils ont réussi à faire leur bout.
Mais Denis, pourquoi on ne l'a pas fait avant? Tu sais, jamais trop tard, là. Mais là, il y avait une conférence de presse qui était à Québec. On savait qu'il allait avoir des gens de la haute à un endroit juste à côté. C'est l'endroit où les itinérants se plaignent. Là, les journalistes étaient là. Ils ont dit, on va faire le ménage. Même si le maire nous dit, non, 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 ça n'avait aucun lien. Hey, depuis ce jour-là, Denis, je trouve plus mes itinérants. Ça me rassurait de les voir en me disant « OK, ils sont en sécurité, ils sont là, ils sont tous ensemble, on est capable de les trouver. » Là, il n'y en a plus un.
On devrait faire des conférences de presse dans le secteur Saint-Roch un peu plus souvent.
Oui.
C'est ce que tu es en train de me dire. Mais tu sais, moi, je demande aux policiers d'être les meilleurs d'entre nous.
Ben
demande à ceux qui enseignent à nos enfants dans les écoles d'être les meilleurs d'entre nous. Puis c'est tout le corps policier qui va porter cet ombrage-là, parce que là, on va se faire raconter avec plus de détails ce qui se passait. Va falloir vérifier aussi, parce que moi, je pense qu'il faut checker le corps policier à grandeur. Il faut que les pommes pourrites déguerpissent. Ouais. Tu n'as pas de place pour ça.
Puis à l'inverse, tu as des journalistes qui vont aller vers des individus qui sont criminalisés. Puis là, les individus criminalisés vont en mettre encore plus. En
c'est
disant,
sûr. Moi, j'ai été arrêté, pas parce que j'ai tiré sur des gens avec mon gun, c'est parce que je suis noir.
Non, tu as tiré sur du monde avec ton gun. C'est normal que tu te fasses arrêter. Puis si tu résistes à ton arrestation, c'est normal que ça brasse un peu. Si tu es un policier blanc dans le secteur de Montréal-Nord, à matin, tu tolères-tu plus qu'à l'habitude? Tu dois pas être capable de bien faire ton travail avec cette histoire-là.
Ben, t'as pas le choix. T'as pas le choix de laisser aller dans une certaine mesure, parce que c'est déjà un climat qui est excessivement tendu. Le policier, à chaque fois qu'il s'en va faire une arrestation, il y a trois téléphones d'en face, puis il y a du monde qui insulte pour être sûr que le policier va aller plus loin que ce qui est supposé. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas juste une affaire de couleur de peau, là. C'est une affaire de criminels en général ou de manifestants qui veulent partir la marde puis qui défient les policiers. « Ah ouais, faites quoi? On te filme! » Puis ainsi de suite. Je veux dire, c'est pas un climat... Moi, je pense que je serais pas capable de faire ce job-là. Je pognerais le mort aux dents. Je pognerais à un moment donné. L'impatience me ferait sortir de mes gonds. Mais je suis pas policier. Je demande à ce que les policiers soient les meilleurs d'entre nous puis qu'ils soient capables de faire leur job. Ça leur prendrait des body cams. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça.
Vraiment.
Je pense que les policiers se sentiraient aussi plus en mesure de faire leur travail correctement by the book, en sachant qu'il y a tout le temps une caméra de leur côté qui intégralement va filmer les arrestations, les conversations, les confrontations de A jusqu'à Z. Puis ça permet aussi de voir est-ce qu'on a affaire à un policier raciste ou on a affaire à un policier qui fait son travail. C'est important pour la communauté. Puis il y a bien des communautés à Montréal qui vont avoir besoin de se faire rassurer là-dessus, là, avec l'histoire qu'on a.
Parce qu'avec les body cams aussi, ça aide les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendants à prendre justement la bonne décision. Ouais. Puis, tu sais, s'il faut éclairer 15, 17, 20 policiers qui font pas bien leur travail, justement, puis qui le font dans un dessin raciste, bien, faisons-le pour régler la situation. On va le savoir avec ça.
Le moment me semble bien choisi pour rappeler qu'en Amérique du Nord, ceux qui sont les plus violents envers les femmes, les plus violents envers les enfants et qui génèrent le plus de criminalité per capita, c'est l'homme blanc. OK? Ça, c'est du factuel. Mm-hmm. Fait que pour le reste, on peut y aller. Gâtez-vous avec tous les préjugés qui sont possibles, mais les faits demeurent incontournables et il n'y a même pas l'ombre d'un doute au niveau statistique qu'on est les plus grands générateurs de crimes per capita. Fait que de penser que le crime n'appartient qu'à une seule communauté ou que le crime est amené par des gens qui viennent pas d'ici, puis ainsi de suite, ça, c'est se bâtir des narratifs dans notre tête, puis ça, c'en est du racisme.
Deux choses se sont réglées dans les dernières heures. Bon, ça a l'air que la guerre est finie entre les États-Unis et l'Iran. On l'a appris hier. Qu'est-ce qui arrivait hier? C'était le 80e anniversaire de Donald Trump, et il y avait tout un show devant la Maison-Blanche. J'ai regardé ça un peu. Les images étaient de toute beauté. Je me suis réellement posé la question à savoir si ça avait sa place. Là, un show de UFC carrément en face de la Maison-Blanche. Moi, j'aimais les images, mais je trouve que ça enlève un peu à...
Un peu?
Tu sais, de voir Donald Trump qui sort avec le président de la UFC du bureau Oval. Tu sais, les deux, ils ont un visage bien sérieux puis ils s'en vont vers le ring.
C'est des affaires simples qu'ils font aux Émirats Arabes Unis, là, les manias du pétrole qui sortent avec Vince McMahon puis Brock Lesnar.
Puis là, qui nous les ramènent de la retraite parce qu'ils les ont jamais vus.
Ben oui, tu sais, ça fait Corée du Nord, ça fait Poutine, ça fait dictateur à la petite quéquette, là. Tu sais, c'est minable, c'est minable. Jamais l'Amérique du Nord aura montré quelque chose d'aussi minable au reste de l'humanité.
T'as-tu entendu un des combattants s'adresser à Michelle Obama?
D'ailleurs, lui, il a un bon passé et un bel historique là, pour se présenter sous à dépeser, dire n'importe quoi.
Ah, hier, il s'est gâté. Okay. Michelle Obama is a man.
Ça en prend du courage hein, pour dire des conneries de même devant des milliers de magas complètement semi-tarés. Là. Hey, on parle de toute une paire de testicules sur cet individu-là. Là.
Tout le monde applaudit.
Et là, le monde...
C'est le plus mauvais visage qu'on aura jamais offert dans une cérémonie politique de toute l'histoire de l'Amérique du Nord.
Tu sais, c'est un freak show. Hier, ce qu'il y avait en face de la Maison-Blanche, moi, ce qui m'agace, Denis, c'est que pendant que le conflit semblait être réglé, on continuait à bombarder. Il y a eu probablement des innocentes victimes au travers de ça, mais on voulait attendre le 80e anniversaire de Donald Trump pour l'annoncer, pour dire que tout était réglé, mais... La réalité, c'est que c'est pas vrai que tout est réglé. Là.
Je suis un prix Nobel de la paix. Je viens de terminer la guerre que j'ai débutée moi-même. Puis la guerre est pas finie parce qu'Israël est encore en train de bombarder.
Oui. Hey, wow. Il y a absolument rien de réglé. Puis le détroit d'Hormuz, on va se le dire, avant que ça reparte comme ça virait il y a de ça 4 mois, on parle de plusieurs semaines où les deux parties se feront pas nécessairement confiance.
Ah non, puis David Chabot l'a très bien expliqué avec vous autres ce matin. Là. Il a été excellent comme d'habitude. Mais tu sais, Donald Trump était le gars qui se disait « Les ententes de paix, c'est les pires de l'histoire de l'humanité. » Lui va signer un contrat de paix entre gros guillemets où on n'aborde même pas le nucléaire puis va nous faire à croire que c'est l'affaire la plus importante qui est arrivée aux États-Unis depuis qu'on a mis le pied sur la Lune. Et il y a des gens assez totons et stupides pour continuer de le croire à chaque fois qu'il dit des
niaiseries. Je dirais que sa base, il est en train de la perdre. Là, j'espère. Quand on regarde les sondages, des gens qui étaient pro-Trump commencent complètement à se retirer du topo. C'est pas une mauvaise chose parce que ça va y mettre de la pression de s'améliorer.
Il y a une couple de haut-parleurs qui commence à ressembler à des cornets, par exemple.
Ben non, mais là, hey, voyons donc. Ils vont réouvrir le détroit.
Ouais, c'est parce qu'il était ouvert.
Ah oui?
Oui.
Ah, je pensais qu'il était fermé depuis des décennies.
Avant de servir de marionnette utile, d'idiot utile pour Israël, il était ouvert. C'est ça, ce détroit-là, tout allait bien.
En fait, il n'y a rien qui a changé. Donc, s'il n'avait pas été là-bas, on en serait encore à la même place aujourd'hui, si ce n'est que le détroit d'Hormuz continuerait à faire de la business. Là.
Fait que moi, j'ai pas tant le goût de célébrer avec un gars du UFC qui me dit que Michelle Obama est un homme. Là, je m'a sauté un tour là-dessus là, pour le nom de l'Amérique.
Non, ça... J'écoutais ça hier, ça avait juste aucun bon sens. Hey, Denis!
Oui!
Moi, là, je peux dire que mon Canadien s'est fait battre par les gagnants de la Coupe Stanley. Mais...
Ouais, on peut se consoler comme ça en regardant Jesperi Kotkaniemi soulever la Coupe.
Il n'a pas joué un match!
C'est terrible!
C'est des drôles d'images.
Ouais, c'est
des drôles d'images. Max, il y a Mike Riley aussi, l'ancien du Canadien. Lui, a joué 2 matchs en série.
Max, probablement, ça va être à surveiller. Max va se coltailler aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les journalistes qui ont décidé que Jordan Staal, c'était le MVP.
Ouais.
Max, il n'est pas d'accord.
Ben écoute, les Hurricanes nous disent que sans son leadership, il n'aurait pas gagné la Coupe. Ouais. Moi, je ne suis pas dans le vestiaire, fait que je vais décider de les croire.
Absolument. Es-tu dans le vestiaire, toi, Max?
Ben non, mais absolument que le leadership... Et puis la part de Jordan Staal, comprenons-nous bien, là, est immense pour les Hurricanes. Mais un gars qui a fini 22e pointeur des séries, que s'il enlève un petit point, il n'est même pas dans le top 7 des pointeurs des Hurricanes... Que tu me dis que c'est lui le MVP des séries? Parce que là, il faut se comprendre.
C'est un bon joueur défensif au niveau des mises au jeu. Il dominait.
Absolument. Oui à tout ça. Mais c'est le joueur le plus utile de toutes les séries. Le gars est arrivé en finale, puis il y a une grosse finale. Le gars est arrivé en finale, il y avait 2 buts depuis le début des séries.
Si tu décides que tu le donnes à un joueur de l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley, à qui tu le donnes?
Blake, Hall, Healer, Stankoven. Il y en a au moins 4 qui le méritaient pour moi. Autant sinon plus que lui.
Moi, j'ai vu le coach en chest là, hier, là, puis moi, j'y aurais peut-être donné le Conn Smythe.
Il est encore en shape.
Ça n'a pas de sens, hein?
Il a déchiré sa chemise comme Hulk Hogan, il est encore en shape. Il serait capable de faire une coupe de chiffres. Là.
Rod Brind'Amour, dans l'histoire des Hurricanes, sont rendus à quelque part comme 110 victoires en série. Il y a seulement 2 de ces victoires-là auxquelles il n'y a pas participé en tant que joueur ou entraîneur.
C'est incroyable. Hein?
C'est Monsieur Hurricanes. Puis... D'ailleurs, les Hurricanes sont l'équipe dans les 8 dernières années avec le plus de victoires, saison régulière et série inclus. Donc, c'est vraiment une Coupe Stanley méritée.
Ça ne veut pas dire que c'est du hockey excitant tout le temps, mais whatever works. Je veux dire, à partir du moment où tu as bâti une équipe qui est capable d'endormir des offensives redoutables comme celle des Knights de Vegas ou même celle du Canadien. Ça
à leur défense, ils les endomment pas avec une trappe, ils les entombent avec une possession de rondelles.
C'est plus
moins passionnant que oui. Les Devils de 94.
Oh, oui. Des belles histoires. Brandon Boussy, qui est gardien recrue de 27 ans, qui n'a jamais été repêché dans la Ligue nationale de hockey, qui lève le gros trophée. C'est beau à voir.
Ah oui, puis je suis retombé là-dedans un peu. Là, j'avais pas écouté de match de la finale, mais veux pas. Là, quand tu commences à nettoyer la coupe là, à 5 minutes de la fin de la troisième période, puis que tu vois l'effervescence qui commence à pogner sa glace, puis tu sais, il y a quelque chose d'unique là-dedans là, qui rend ça hot à chaque fois. Puis tu sais, ils m'ont fait chier les Hurricanes, mais rendu là, aussi bien d'avoir été battu par l'équipe qui a gagné la coupe.
On en parlait tantôt avec Marc-André Leclerc. C'est un autre sujet, tu vas me dire, t'as raison. Mais PSPP qui questionne à savoir si le Parti libéral du Québec, il y a le crime organisé derrière ça. Là, Charles Milliard et toute son équipe sont en grosse panique. On est en train de bâtir une guerre entre les bleus et les rouges. Là.
On est en train de faire gagner Christine Fréchette.
Oui.
Si tu me demandes mon humble avis. Là,
les Québécois ont horreur de la chicane.
Oui. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon semble avoir une fâcheuse tendance à vouloir démoniser tout ce qui n'est pas le Québec souverain de demain. Là. Là, le TGV, c'était le démon. Le Milliard, c'est le démon. Là, les libéraux, c'est le démon. L'Ontario, c'est le démon. Ça peut marcher avec mon grand-père, là. Mais si tu veux aller chercher du nouveau monde puis dépasser la barre des 30 % de souverainisme au Québec, là, ça, c'est la recette pour ne pas y arriver. Là. Moi, je suis un souverainiste prenable. As-tu un plan de match qui me montre que la province de Québec va mieux gérer ses affaires que le reste du Canada puis qu'on ne traînera pas des poids morts financiers comme l'Ontario puis l'Alberta? Présentement, c'est l'inverse. Présentement, on bénéficie d'une péréquation de bien-être social. Le chèque de bien-être social qui vient du Canada, c'est nous autres qui en empoche le plus. Oui, mais on en donne beaucoup! Ouais, encore une fois, faites vos calculs per capita avec l'Ontario et les autres provinces.
T'as plus besoin de réagir. T'sais, Denis te vole ta réflexion.
Ben oui, mais c'est parce qu'il y a
qui comprend pas ça, lui, la péréquation.
Ouais, j'imagine que je comprends pas ça, puis j'imagine qu'une province au complet comme l'Alberta comprend pas ça non plus. C'est pour ça qu'ils vont devenir souverainistes avant nous autres, mais ça, c'est à côté du débat. Moi, la journée où ce qu'on me propose un plan de match qui montre qu'on va être meilleur que les autres. Mais présentement, c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, c'est ça clique. Moi, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas capable d'upgrader un ordinateur au gouvernement. Je vois des inspecteurs qui passent leur journée avec un ruban à mesurer si t'es à 9 mètres ou 10 mètres de la porte de l'hôpital quand tu fumes ta clope. Je vois des inspecteurs qui se promènent avec des bodyguards dans Saint-Roch pour retourner à leur véhicule. Oui, Saint-Roch, c'est plus magané que c'était. Je connais pas personne qui a un garde du corps à part les inspecteurs de l'Office de la langue française pour retourner à leur voiture. T'as-tu un bodyguard, toi?
Non, c'est moi, mon bodyguard.
C'est toi et ton bodyguard. T'organises toi-même.
Oui.
Puis quand tu trouves quelqu'un dans ton Jeep, tu t'arranges.
Je crie après plus fort.
Ouais, il y avait un gars dans ton Jeep qui disait « Michel Obama est un homme! »
Sors de mon char!
Tu sais, il n'y a rien présentement. Il n'y a aucun indicateur qui nous montre qu'au Québec, on est capable de faire mieux.
Entièrement d'accord.
Mais en plus de ça, là, on va rejouer la game de tout est méchant sauf le Québec souverain de demain. Là. Le TGV, c'est méchant. L'Ontario, c'est méchant. Milliard, c'est méchant. C'est le crime organisé. C'est des affaires de slow-mo.
Ils se positionnent drôlement, PSPP. Ben de l'autre côté, Charles Milliard a embarqué là-dedans. J'imagine qu'il
tombe dans toutes
les pièges.
Ben oui.
Mais il aurait dû se concentrer tout simplement à dire, savez-vous quoi, on va attendre l'issue des enquêtes. Puis lorsque les enquêtes seront rendues publiques, ben c'est moi qui vais agir. Vous allez voir, ça n'arrivera plus jamais. Maintenant, on peut-tu passer à d'autres choses puis proposer quelque chose rapidement, là, quelque chose d'exceptionnel rapidement? Visiblement, ils ont décidé d'embarquer avec PSPP. Puis, il n'y en aura pas de poursuite en cours. Là. Ils n'iront pas jusque-là. Puis, Christine Fréchette semble avoir le beau jeu actuellement. Éric Duhem qui se positionne autrement ce matin. Je trouve ça un peu plus positif, son positionnement.
L'étoile du jour.
J'aimerais bien avoir un débat des chefs à Québec. Tous les débats des chefs qui sont prévus se feront à Montréal. Les grandes entrevues avec les chefs de parti se feront aussi à Montréal. On comprendra que ce ne sera pas nécessairement les meilleures entrevues, mais on dit que les grandes entrevues, ce sera plus à Montréal. Éric Duhem dit on est la capitale nationale, ce serait bien qu'on se fasse respecter. C'est le héros du jour.
Au moins la majorité. S'il y a une chose, Duhem n'en demande pas assez. Au moins la moitié des débats
plus loin, toi.
Devraient se faire à Québec. Ouais. Au moins!
On va y en parler ce matin. 8h50, il va être avec nous autres.
J'aurais aimé que Bruno Marchand soit le premier à sortir là-dessus, pour être bien honnête avec vous autres. Moi, je pense que c'est le premier qui doit crier et dénoncer haut et fort la non-réalisation de la politique provinciale.
Ouais, mais là, il était en Espagne, pas en Belgique, là, pour des affaires de vélo.
Ça, c'est pas mon problème à moi, ça.
On dirait que c'est pas en lui. J'ai plus l'impression, puis ça, c'est vraiment une impression qui m'appartient, là, de Bruno Marchand. C'est plus le gars qui va essayer de tout faire. Si ça concorde avec ce que lui veut, il va tout faire. Mais si c'est pour mettre dans l'embarras un gouvernement, il le fera pas. Si c'est pour mettre dans l'embarras quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel, il le fera pas. Tandis que la bombe, s'il était pas d'accord avec toi, tu le savais quand même assez rapidement.
Régis Labeaume aurait jamais laissé l'annonce du tramway se faire à Montréal. Jamais, jamais, dans aucun scénario, dans aucune circonstance. C'était une qualité pas un défaut. Mais il y avait une Christie de tête de cochon, puis il se serait organisé, puis il aurait réussi. Là, la conférence de presse se serait tenue ici à Québec.
Les gens de la CAQ, en fin de mandat, ils n'ont pas réagi non plus.
Non.
Vous n'avez rien à perdre.
Ça me fascine,
qui vous reste du gaz dans le tank. Vous n'avez rien à perdre. Vous quittez la politique. C'est le temps de dire ça n'a pas de bon sens que cette annonce-là se fasse à Montréal.
Elle est venue faire sa première grande sortie politique, là, Mme Fréchette, puis Bruno Marchand avait l'impression, ah ben là, Québec va revenir au cercle des priorités. Ce qu'on voit, c'est la non-réalisation de la politique en général, puis on le sait, les médias, c'est un peu la même chose. Il y a plein de régions qui ont été abandonnées, qui n'ont plus de représentants d'informations régionales, puis c'est des tragédies. Mais à Québec, on est encore capable de tirer la nappe de notre bord, et il faut continuer à le faire. Puis Bruno Marchand, qu'il soit en Espagne ou sur la Lune, doit être de tous ces combats-là. Puis oui, il doit trouver un petit peu plus de poigne. Puis s'il faut ça se négocie dans le corridor, à coup de calice de tabarnak, ben il faut que ça se fasse. Québec est la capitale nationale. Québec est la place où il y a l'Assemblée nationale. Au moins la moitié des débats devraient se tenir dans notre ville. Chaque cérémonie officielle où il y a des dignitaires, où il y a des premiers ministres, ça devrait se faire à Québec aussi. Ah, mais vous savez, l'horaire de Mark Carney, j'en ai-tu rien à battre, moi, de l'horaire de Mark Carney? Quand ça se passe au Québec, ça se passe à Québec. Fait que si M. Carney veut venir gagner des électeurs avec une annonce électoraliste, pour le bien de la fédération, Max, ben il va trouver du temps dans son horaire, puis il va venir faire ça à Québec.
Oui, mais je reviens avec les députés de la Coalition Avenir Québec qui se retirent, qui ne se représenteront pas aux prochaines élections. Ça aurait été un bon coup pour Jonathan Julien, qui est perçu un peu comme étant un lèche-botte. Là,
oui.
De sortir en disant que c'était inacceptable, il n'est pas sorti. La madame qui se concentre sur ses réseaux sociaux maintenant, probablement qu'elle aura une carrière dans les médias, parce que si je me fie à ce que j'entends, ça a l'air que quand il y a des grosses réunions, madame est sur ses cellulaires, est sur son Instagram, elle transporte des boîtes vides en disant « Regardez à quel point je transporte mon équipement de l'Assemblée nationale vers mon bureau de comté », alors qu'on voit clairement le soleil au travers de la boîte. Je veux dire,
vendredi matin,
c'est des lèches-bottes.
Vendredi matin, je t'entendais. Voyons, la boîte est vide. Il fait une joke, là, il invente un peu. Mais on va chercher le vidéo de Geneviève Guilbeault. Puis là, je dis, ben non, elle est pas vide. Ah, oh, tabarnak.
Elle est vide.
Elle est vide. C'est une boîte vide. Vide, vide, vide. Vide comme chez vide. Elle est vide.
L'as-tu marché vite en talon haut, toi, sur l'interbloc?
Je me souviens pas si c'est dans notre ancienne vie radio, mais j'étais dans le lounge, puis je pense que j'étais en train de me couler un café, puis elle était là, puis elle était en entrevue avec... Je pense que c'était avec vous autres ou avec l'autre qui était là en place le matin. Mais par 10 fois, elle s'est fait filmer par son attaché de presse pour se lever du divan puis ouvrir la porte du studio. Par 10 fois, Denis Sacrafice.
Ben oui, elle voulait la bonne shot.
Par 10 fois.
Les influenceurs, c'est
t'es député, c'est ça sacrament. T'es vice-première ministre du Québec. Tu devrais être au-dessus de ça.
Sais-tu ce qui est plate? C'est que je suis super content de la sortie d'Éric Duhaime. Puis, parce que c'est Éric Duhaime, j'ai l'impression que ça va virer en chiard. Puis que personne... J'ai l'impression que le débat va être dévié ou que le débat se fera pas. Parce que oui, j'aimerais ça que Charles Milliard sorte pour dire « Monsieur Duhaime a raison, on demande la même chose. »
C'est une de ses promesses, se rapprocher des régions.
J'aimerais ça que plein de gens qui s'en vont pour la CAQ disent « Ouais, c'est vrai, hein, on s'en sac de la région de Québec, ce serait vraiment le temps qu'on fasse de quoi. » J'aimerais ça même entendre des médias et à Québec et à Montréal dire exactement la même chose. mais j'ai l'impression qu'on va retomber dans nos... dans nos vieilles chicanes de clochers, alors que c'est pas ça le point. Le point, ouais, c'est que c'est à Québec que ça se passe. That's it, that's all.
Ben, c'est ça. Puis là, on voudra pas donner de capital politique, non, à Éric Duhaime, fait qu'on sortira pas.
C'est dommage.
Même le maire Marchand, qui a pas Éric Duhaime en haute estime, fera pas la sortie juste parce que c'est Éric Duhaime.
Ah, il devrait le faire.
Je le sais. Ça devrait être un débat, ça, apolitique. Il y a une loi qui existe sur la capitale nationale, faut la respecter. Ça devrait être apolitique, ça devrait être transpartisan.
Peut-être que la façon la plus élégante de sortir de Bruno Marchand, ce serait de dire « Duhaime a un bon point, mais il n'en demande pas assez. » Puis lui, de le demander, mm-hmm, qu'au moins 50 % des débats et que 100 % des cérémonies et des annonces protocolaires se déroulent à Québec.
Ouais. On t'écoute à 14 h Denis, avec toute ton équipe?
Non, pas toute mon équipe.
Comment ça?
Il y en a une qui est enceinte, là, puis c'est elle, les nausées, puis tout, là, fait que...
T'as laissé la raison de prendre des pauses, elle?
Ah ben là, au moins à cette heure, tout le monde le sait, là, fait qu'on va arrêter d'inventer des affaires, là. Hey, un moment donné, on était rendu avec une labyrinthite, puis un paquet, oui, d'affaires qui se pouvaient pas, là.
Ouais.
Audrey est enceinte, elle nous l'a annoncé officiellement, puis il y a des petits bouts plus difficiles que d'autres. Fait que parlant de petits bouts plus difficiles que d'autres, c'est Max Larouche qui va être avec nous autres, oui, cet après-midi.
Toi, tu dis oui.
Ben, oh, je dis oui, oui. J'ai dit oui.
Petit bout. Il t'a dit petit bout.
Ah, OK, ce bout-là. Ben, là...
Ce bout-là, oui, 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 ce bout-là, oui. C'est naissant.
Ben non, mais petit bout plus difficile. Je sais pas ce qu'il voulait dire par là.
Ah, moi, je sais très bien ce qu'il voulait dire.
C'est quoi qu'il voulait dire?
Petit bout.
Tu penses que c'est une joke de graine?
Ben,
je pense pas.
Non, je suis ben trop mature pour ça.
Denis Gravel ferait jamais ça.
Non.
Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit matin? Il m'a dit que je manquais d'empathie parce que il est raqué ces temps-ci. Puis là, je dis, mais comment tu veux que je manque d'empathie? Tu t'entraînes pas. Tu bouges pas.
Ben, il fait sa marche à tous les matins.
Oui, mais il est raqué. Denis, ouais, depuis vendredi, il dit qu'il est raqué. Il mange que du fast-food,
ça,
pratiquement.
C'est plus vrai du tout.
Puis il déjeune devant moi au Red Bull le matin.
Oh, c'est vrai.
C'est pas yob, ça.
Puis il veut qu'on ait de l'empathie pour lui.
Je t'ai pas demandé d'avoir de l'empathie. Je t'ai partagé que depuis vendredi, j'ai genre une grippe musculaire, mais sans être grippé. Fait que je me demandais ce que j'avais, c'est tout. Là, je voulais pas de sympathie de ta part. Je voulais juste partager comment je me sens.
T'as-tu déjà eu ça, une grippe musculaire, sans être grippé, toi, Denis?
Moi, je sais juste qu'il est 8h26, puis il est déjà papier sablé. J'ai hâte de voir à 17h à soir. Hey, le plaisir qu'on va avoir dans le retour.
Ah, il va être pour le plaisir à le starter.
Merci, Denis. À tantôt.
Michel Obama est un homme. Bye, là.
Salut.
Hey, le conspire!
Le Pit Stop avec Denis Gravel. Présent.